Bonjour à vous toutes et vous tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 février 2017. Oh, ça se dit bien ça, il me semble, hein? 17-02-17. Pas de chance, j'aurai pas l'occasion de faire un chèque aujourd'hui. C'est Clotilde Seille, vous l'avez peut-être reconnue si vous êtes des fidèles de Canal M, et c'est l'émission Le National qui vous est présentée maintenant. Comme toutes les semaines, si vous ne connaissez pas encore cette émission-là, bien, on s'est dit que pas facile d'écouter la radio tout le temps, du matin au soir, et on s'est dit que peut-être vous regrettez d'avoir manqué certains sujets, surtout si ces sujets sont d'intérêt nationaux, qu'ils nous concernent toutes et tous, d'Est en Ouest. Alors, le National vous permet d'entendre ou de réentendre des segments de ces émissions que nous vous proposons tout au long de la semaine dans la programmation de Canal M. Et on commence tout de suite avec une émission que je connais bien puisqu'il s'agit des paractualités que j'anime pour vous du lundi au jeudi de 11h30 à midi. Et cette semaine, c'était exactement le 13 février, je recevais une nouvelle animatrice, non pas de Canal M, mais d'Ami Télé. Et vous savez qu'Ami Télé, c'est sur le service de base de tous les fournisseurs télé à travers le Canada. C'est un petit peu le pendant de ce que nous faisons ici à la radio, mais avec de l'image. Et c'est une télévision qu'on pourrait qualifier de service pour les personnes handicapées, toute forme de handicap, ou pour les personnes âgées. Vraiment, tous ceux qui sont finalement un peu négligés par d'autres médias, et je le dis sans méchanceté aucune. Alors donc, revenons à cette nouvelle animatrice, elle s'appelle Camille Chay, et elle nous présente un nouveau magazine qui déboulonne les préjugés sur le handicap et qui s'appelle « Pareil, pas pareil ». Alors, si tout va bien, je devrais maintenant pouvoir m'entretenir avec une animatrice de la chaîne de télévision Ami Télé. Je parle avec Camille Chay. Camille?
Oui, bonjour.
Bonjour Camille. Camille, on se parle aujourd'hui parce que vous êtes à la tête, à la barre d'une toute nouvelle émission à Ami Télé qui s'appelle « Pareil, pas pareil ».
Oui, tout à fait.
Alors, à quoi ça fait référence, ce titre? Je m'en doute bien, remarquez, tout le monde s'en doute bien, mais vous allez nous en dire un petit peu plus.
Oui, ben en fait, c'est très simple parce que dans cette émission, on présente des portraits de personnes, toutes vivant avec un handicap différent. Mm-hmm. Et ben, le but de cette émission, c'est de, oui, d'une certaine façon, mettre en lumière leur façon de vivre, mais en même temps, on est pareil, mais on n'est pas pareil. C'est-à-dire, on est comme tout le monde, on a notre différence, mm-hmm. mais c'est pas ce qui va nous exclure des autres et de la société.
Et quand vous dites « nous », c'est parce que vous-même, vous vivez oui. avec un handicap. Hein? Voudriez-vous nous en parler, Camille? Vu que nous, en oui. plus, on est à la radio, c'est pour que les gens puissent se faire une idée avant de vous voir.
Bien sûr, oui. En fait, moi, je suis née sans mon bras et ma jambe gauche.
D'accord.
Donc, c'est une malformation congénitale. On ne connaît pas la cause, mais voilà, c'est ce qui fait que je vis avec un handicap. Et ça ne m'empêche pas de fonctionner... tous les jours.
Quoi. Ben oui, absolument. Camille, est-ce que l'émission est déjà en onde ou elle va l'être ou...
Oui, l'émission est déjà en onde, donc sur les ondes d'Ami Télé.
Oui, on pourrait peut-être rappeler comment on peut regarder Ami Télé, sur quel réseau, sur quelle chaîne.
Oui, c'est ça. En fait, si c'est avec Bell, donc c'est le poste 50. Mm-hmm. Si c'est avec Vidéotron, c'est le poste 172.
D'accord.
Donc ça, c'est pour la télévision. Et après, sur le site de Ami Télé, Ami Télé. .ca. Il y a aussi les émissions qui vont être diffusées au fur et à mesure. Donc, ça a été diffusé la première le 2 février, mm-hmm. Le jeudi.
D'accord.
À 9h le soir et c'est en rediffusion le samedi à 11h le matin.
Alors, parlez-nous un peu de quelques cas dont il est question et que vous nous présentez à cette émission-là.
Oui, ben on voit plusieurs personnes qui ont un handicap visuel, bien sûr, ça c'est quand même fréquent, je dirais. Mm-hmm. Il y a aussi trisomique.
Okay.
Il y a un homme, par exemple, qui est aussi aveugle, lui qui fait le braille et qui est aussi animateur radio.
Ah d'accord.
Donc, oui, voilà, donc il y a vraiment un peu de tout. Il y a qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y en a tellement que oui, voilà. Certains aussi qui ont... Mais je dirais que ça tourne beaucoup autour du handicap visuel. Certains mm-hmm. vont avoir un handicap aussi physique, mais c'est à peu près ce qu'on voit dans les reportages, oui.
OK. Un animateur non-voyant, mon Dieu, vous piquez ma curiosité.
Oui,
il s'appelle comment, ce monsieur?
J'ai pas son nom
Ah,
par
d'accord,
cœur.
ok.
Je pourrais le retrouver, mais c'est un haïtien.
Ok.
Ça fait longtemps qu'il a sa propre émission en créole.
Ah oui.
Oui, c'est génial. C'est une très, très belle entrevue.
Ah ben ça doit être ok sur
C'est à
ouais.
voir.
Ça
C'est à
doit être
voir.
voyant sur la radio là qui est sur
Ah oui.
Saint-Laurent hein, j'imagine. Oui, c'est
Oui.
super. Bon. Et alors l'émission en ce moment, on peut la voir. Est-ce que c'est sous forme de documentaire, de reportage d'abord? Je veux dire, est-ce que vous allez sur place? Est-ce que vous allez dans le milieu de vie de la personne ou est-ce que c'est un témoignage en studio?
Oui, ben en fait, l'équipe de production est allée rencontrer chaque personne dans leur milieu de vie.
D'accord.
Moi étant l'animatrice, j'ai plutôt fait le tournage en studio pour présenter, faire les liens entre tout le monde. Mais c'est ça, c'est l'équipe qui a rencontré toutes ces belles personnes.
D'accord. Dites-moi, pour faire un petit peu plus connaissance avec vous, Camille Ichet, est-ce
Oui.
que vous faites vos débuts à la télévision?
J'ai déjà eu quelques expériences à la télévision. J'ai déjà auparavant animé une autre émission qui s'appelait Paranatation 2013, donc qui touchait le sport, la natation, mais pour les personnes
D'accord.
handicapées. Ça fait à peu près 4 ans de ça. Donc j'étais co-animatrice avec Jean-Marie Lapointe.
Oui.
Donc ça, c'était ma première grosse apparition. Après, j'ai fait plusieurs petites entrevues depuis que je suis jeune, toujours concernant les prothèses, le handicap, la
Oui.
différence. Et voilà, j'ai
Vous
donné
êtes
aussi
donc très,
quelques
très
conférences.
impliqué, hein? Donc,
Oui.
en accessibilité universelle, en inclusion, en tout ça.
Oui, c'est très important pour moi parce que je fais partie de l'association des amputés de guerre, donc c'est un rôle dans
Oui,
Fabrice qui me tient à cœur.
bien sûr. Et vous-même, vous êtes quelqu'un d'actif?
Oui, tout à
Oui,
fait.
en plus, oui.
Oui, je suis très active parce que je fais de l'escrime en fauteuil roulant
Ah
avec
oui!
Team Canada.
Oui.
Ça c'est, oui, on peut dire que c'est très, très actif,
Oh,
mais j'aime beaucoup
Seigneur,
le
oui,
sport.
j'ai vu les photos, c'est très impressionnant. Plus que des photos, vidéos, tout ça,
Oui.
et c'est vraiment impressionnant. C'est pas de tout repos, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas parce que c'est en fauteuil que c'est de tout repos, quoi.
Oh non, non,
Oh
non, il ne faut
non,
pas se fier aux
dit-elle.
apparences.
Camille, est-ce que vous savez, la prochaine émission, donc, elle sera diffusée quand et ce sera au sujet de qui?
La prochaine émission va être diffusée jeudi prochain. Donc,
D'accord.
même chose, ça va être le jeudi à 21h et en rediffusion le samedi à 11h. Je connais pas le contenu par cœur dans
Ah,
l'ordre de
d'accord.
toutes les émissions, mais je sais qu'on va rencontrer un jeune autiste qui fait
D'accord.
des dessins.
OK. Ben,
Oui.
écoutez, Camille, je serais très heureuse à un moment donné que vous soyez, vous aussi, une invitée sur Canalem. Peu importe l'émission, vous serez toujours la bienvenue. Et puis,
C'est
ben,
très gentil.
parlez de nous, comme on parle
Tout
de
à
vous,
fait.
ça va nous faire plaisir.
Tout à fait. Je vais
OK.
parler de vous avec plaisir. C'est très gentil.
Merci, Camille. Passez une très belle
Merci à
journée
vous.
et bonne chance pour cette émission.
Merci
Salut, bye
beaucoup.
bye.
Au revoir.
Alors, à ne pas manquer ce magazine, pareil, pas pareil, qui promet de très beaux moments de télévision. On reste avec les paractualités. C'était cette fois-ci le 9 février dernier. Et je recevais à l'émission Karine Villeneuve, directrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille, au sujet d'un mini-documentaire médical sur le nanisme. Son titre, Le nanisme, un handicap à prendre au sérieux. Et c'est un mini-documentaire qui sera en ligne dès le 23 février prochain. On réécoute Karine Villeneuve qui nous en parle. Elle est de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Ce n'est pas la première fois hein, qu'on s'entretient ensemble. C'est Madame Karine Villeneuve. Bonjour, Madame Villeneuve.
Oui, bonjour.
Est-ce que c'est avec vous? Je ne sais plus si c'est avec vous, avec une autre personne que j'avais
La
déjà.
dernière fois, c'était avec ma collègue Nathalie Labelle.
Ah, c'est pour ça que tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi? Je sais qu'on en parle, mais bon, d'accord. Eh bien,
Il n'y a pas de problème.
soyez la bienvenue, Madame
Merci beaucoup.
Villeneuve. Donc, je rappelle que vous êtes de l'Association québécoise des personnes de petite taille, et si on vous parle aujourd'hui, c'est pour que vous nous présentiez un mini-documentaire médical sur le nanisme. Ça s'appelle Le nanisme, un handicap à prendre au sérieux.
Exactement. Il y a déjà plus d'un an, on avait le projet de faire soit des capsules vidéo ou cours documentaires pour avoir un outil promotionnel sur le nanisme. Alors là, c'est enfin le jour du lancement. Alors C'est le 23 février prochain qu'on
D'accord.
va lancer ce court documentaire qui fait à peu près 23 minutes sur le nanisme, la condition, une condition qui est toujours, bien sûr, méconnue. Puis, en fait, le titre, quand on parle de le nanisme, un handicap à prendre au sérieux, c'est justement pour expliquer le caractère sérieux
oui.
de la condition,
oui.
Qui a toujours quand même des conséquences sur la santé, la vie quotidienne et la participation sociale des gens qui
vivent. Bien sûr. Et je me souviens qu'on en avait parlé d'ailleurs en profondeur avec Madame Labelle, justement,
oui.
À ce moment-là. Alors, on va donc, il sort, vous dites, le 23
oui.
Février. On pourra le voir où?
Alors, il sera disponible sur notre site Internet, qui est www.aqppt.org.
Mm-hmm.
Dans la section visiteurs, il y aura une section vidéo et à ce moment-là, les gens vont pouvoir le visionner.
D'accord.
Problème.
Alors, je voudrais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent que AQPPT, pour Association québécoise des personnes de petite taille.
Hein?
Bon, bah, écoutez, donc, lancement le 23 février. Qui a réalisé
ce Alexandre Ruffin, qui
oui.
est un réalisateur qui a fait beaucoup de courts documentaires jusqu'à maintenant,
mm-hmm.
Avec qui on a approché et qui a réalisé le projet. On est quand même très fiers, là, on a très hâte de le présenter au public.
Et alors donc, c'est un documentaire qui va permettre de sensibiliser, hein,
oui.
c'est bien ça. Est-ce qu'il y a un petit synopsis, est-ce qu'il y a un petit scénario
là-dessus? C'est vraiment, quelques participants, autant familles et adultes parmi nos membres qui ont participé,
ah oui.
qui sont interrogés. Là, c'est vraiment et on avait beaucoup de contenu très,
j'imagine.
Très riche.
Oui.
Je pense, et aussi, c'est quand même un document qui, quand les gens vont pouvoir le voir, qui est quand même, on peut se reconnaître même si on n'a pas la condition.
Mm-hmm.
On y aborde quand même la différence et comment aussi voir le handicap comme quelque chose de créatif. Hein.
Oui.
Oui, on vit des limitations, on les nomme, mais on veut aussi, avec ce documentaire-là, ouvrir les gens sur qu'il y a des solutions.
Oui, oui. Donc vous encouragez les gens qui vivent dans cette condition-là à dire, attendez, la vie ne s'arrête pas là.
Exactement.
Si je vous entends bien.
Oui.
Bon.
Et aussi le public à voir le handicap de façon non pas négative, que ce soit triste.
Oui.
Mais comme un élément plus créatif. Mmh. Créatif. Et,
oui. Oui, bien sûr. Dites-moi, ça mériterait, un documentaire comme celui-ci mériterait certainement d'être proposé dans des festivals qui sont consacrés justement à des documentaires ou à des courts-métrages?
Bien, on va voir avec le réalisateur où on peut peut-être l'inscrire. Là.
Ce serait le fun.
Il y a beaucoup de promotion là, quand il sera lancé. On veut approcher des producteurs, d'autres des festivals, d'autres endroits. Là. On veut vraiment l'utiliser le plus possible. Il est aussi sous-titré en anglais directement.
Ah,
alors,
fun.
On veut vraiment ouvrir partout dans le monde.
Bien sûr. Le lancement donc aura lieu le 23. Vous allez faire ça sur invitation ou est-ce qu'il y a des gens?
En fait, c'est sur invitation, c'est à nos bureaux,
mm-hmm.
Dans un genre de 5 à 7, de 17h à 20h.
D'accord.
La projection est à 18h. S'il y a des auditeurs qui pourraient être intéressés, ils n'ont qu'à nous contacter.
C'était ce que je voulais savoir.
Pour s'inscrire, parce que nous, on a vraiment besoin, les gens doivent s'inscrire.
Oui, pour le nombre de places, hein, j'imagine.
Oui, exactement, pour participer.
Mm-hmm.
Sinon, on invite les gens à aller dès le 23, aller le voir, le visionner sur notre site Internet.
Sur le site Internet, dont je vais tout de suite, Madame Villeneuve, rappeler le nom. Donc, c'est aqppt.org. AQPPT étant l'acronyme de l'Association québécoise des personnes de petite taille.
Oui, section vidéo.
Section vidéo, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Madame Villeneuve. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite une belle réussite pour le lancement de ce documentaire et pourvu qu'il soit vu par le plus grand nombre de personnes.
Nous l'espérons.
Bonne fin de journée, Madame.
Merci beaucoup.
Au revoir. On retourne maintenant au 14 février 2017, alors que Benoît Racette, dans le cadre de son émission Accès libre, recevait un de ses chroniqueurs, son chroniqueur techno, il s'appelle Vincent François, et il abordait ce jour-là le thème de l'accessibilité cognitive. On le réécoute.
Avec nous, Vincent François, chroniqueur techno et aussi expert senior en accessibilité du web dans la vie. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci d'être là de nouveau pour cette deuxième chronique. Alors aujourd'hui, on joue avec les mots pour s'assurer de faire des sites web lisibles par le plus grand nombre.
Oui, effectivement. Alors jouer sur les mots, c'est ce qu'on va éviter de faire le plus possible parce que c'est un des problèmes qu'on peut rencontrer.
Ah oui, hein?
Alors effectivement, on va parler aujourd'hui d'accessibilité cognitive. Dans la quatre familles de situations de handicap dont on traite pour l'accessibilité numérique, la plus nombreuse, c'est aussi la moins riche en règles d'accessibilité, c'est la plus complexe à circonscrire et c'est la plus difficile à traiter, c'est toute la famille des handicaps dits cognitifs. Mmh. L'enjeu est de trouver des ponts pour franchir les obstacles d'accessibilité qui sont liés aux technologies, aux situations de mauvaise compréhension, et c'est souvent lié aux questions de langage.
Ah, oui.
Le web étant encore un élément textuel, il y a une grande partie de l'information qui est transmise à travers les mots qu'on utilise, à travers les formes de langage, que ce soit du langage écrit ou du langage parlé. Et donc, on a des problèmes à traiter liés au handicap cognitif.
Mais avant de préciser ce qu'on doit faire pour bien rédiger, à qui on s'adresse quand on améliore l'accessibilité, disons, langagière de nos sites web?
Alors, on parle des gens qui ont des handicaps cognitifs et on parle des gens qui ont des difficultés d'apprentissage.
Okay.
Et ces handicaps et ces situations de difficulté vont toucher les problèmes de mémoire, donc la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, la mémoire visuelle, même la mémoire auditive, se retrouver dans ce qu'on vient de percevoir comme information. Il y a aussi toutes les questions liées à l'exécution pratique des commandes, le contrôle émotionnel, la planification, l'organisation, l'exécution des tâches, l'interaction sur un site web, ça consiste à faire des choix avec son corps, avec ses capacités de jugement. Il y a aussi tout ce qui touche les capacités de raisonnement, le raisonnement logique, l'intelligence mathématique, les questions d'abstraction aussi, d'être capable de saisir
tout
ça.
En gros, il faut s'adresser aux gens qui font partie du grand groupe, à peu près la moitié de la population, qui sont en analphabète fonctionnel, alors, qui présente des difficultés.
Exactement.
De ce type-là.
C'est-à-dire qu'on a aussi, comme on est beaucoup dans l'écrit, on a une grande partie de la population qui ne saisira pas ou très difficilement ce qu'on aura écrit. Donc on parle aussi des problèmes d'alphabétisation, on parle des problèmes de capacité du langage, de perception, la question de l'attention, ça aussi, c'est peut-être le mal du siècle sur le web.
Et il est renforcé d'ailleurs quand on est sur le web. Mais bon, c'est notre histoire.
Mais il y a même des gens qui sont payés cher pour essayer de nous attirer dans les publicités, etc. Donc, on se bat aussi contre les capacités du marketing. Et puis, donc voilà, on a toutes ces ensembles de situations qui posent problème et qui sont difficiles à traiter. Quelles sont les règles à appliquer pour s'assurer de toucher aussi bien des gens qui ont des problèmes de compréhension que des gens qui ont des problèmes de compréhension, de concentration ou de compréhension, etc., ou de comportement. Alors, on a des bonnes pratiques pour ça et qui ne sont pas encore tout à fait fixées comme des règles.
Elles ne sont pas encore connues non plus.
Elles sont évidemment assez mal connues. Et elles sont, mais en même temps, elles sont difficiles à appliquer parce que, justement, on va voir quelles sont ces bonnes pratiques et souvent, elles peuvent rendre difficile finalement le travail.
OK, mais malgré tout, à quoi on doit faire attention?
Alors, on doit faire attention de savoir à qui on parle. C'est la base de la communication, de se rappeler pour qui on communique et ne pas se lancer dans l'écriture pour soi-même. Je fais un site web pour ma compagnie et donc je vais jargonner dans mon domaine, je vais pérorer, je vais être content de dire d'étaler tout ce que j'ai de beau à dire. Non, j'ai à parler à des gens qui ne s'intéressent pas nécessairement à mon sujet autant que moi, sinon ils feraient mon métier, qui n'ont pas nécessairement mes capacités intellectuelles, qui n'ont pas le temps non plus de s'intéresser à la question. Et du coup, il faut que je simplifie mon langage. Il faut aussi parler directement aux personnes, s'assurer de faire que les gens se sentent visés. Il faut aussi avoir une forme active de discussion, faire des phrases courtes, faire des phrases qui sont des sections de phrases courtes, éviter des grandes digressions avec des subordonnées relatives, etc. un peu, dans mes cours d'accessibilité, je pense souvent à Proust en demandant aux gens, est-ce que vous connaissez Proust?
Ouais, mais j'avoue que j'imagine assez mal, par exemple, des tweets avec Proust.
C'est vrai.
Mais un site web, il ne faut pas oublier. Donc, parmi les pratiques, il y a simplifier, il y a d'adopter
oui,
un style direct.
Langage. Ah, c'est un style direct. Utiliser des mots concrets, des mots familiers, éviter donc des mots trop jargonesques ou alors les expliciter. Éviter les mots supplémentaires, éviter de charger le langage et de noyer les gens dans les problèmes de compréhension. Utiliser des listes et des tables plus que des paragraphes. Parfois, ça peut être très, très utile, beaucoup plus que ce qu'on fait dans le papier ou dans la littérature. Et puis, c'est essentiellement ça qu'on va mettre en avant.
Bien.
On considère au Canada qu'il y a 4 à 5 niveaux de compétences de langage. Et on a, par exemple, dans le standard du gouvernement du Québec en accessibilité, l'idée de respecter ce qui est le niveau 3. Alors, dans les 4-5 niveaux, il y a un premier niveau qui est 17% de la population qui a un niveau de compétences très faible en écrit. Mm-hmm. Ensuite, on a 25% au niveau 2 qui est un niveau de compétences qui se limite à lire des textes très simples, qui correspondent à des tâches peu complexes, des listes de courses, des listes d'instructions à faire, à suivre. Niveau 3, qui est 35% de la population, on a un niveau de compétence nécessaire pour terminer les études secondaires et accéder aux études supérieures. Donc, fin de secondaire 5 à peu près, plus ou moins acquis.
Mais c'est quand même élevé. Est-ce qu'aux gens qui sont au niveau 1 et 2, il ne faut pas leur offrir un substitut ou
alors,
un langage simplifié?
Ça, c'est toute la question. Est-ce qu'on fait le travail en double? Parce que c'est ça que ça veut dire. Faire un substitut, c'est faire le travail en double.
Mais on n'est pas capable de descendre un peu les standards. Excusez-moi, c'est le gars de défense de droit qui
oui,
s'approche
oui,
tout à coup.
C'est la bonne discussion qu'il faut avoir.
Ouais.
Simplement, l'idée, c'est de toucher tout le monde. Donc, en diminuant son langage, on peut aussi perdre les gens qui, eux, n'auraient pas eu de problème de compréhension. C'est-à-dire
que... Oui. Donc, quand on simplifie à outrance, il y a vraiment des lecteurs qui passent à côté, qui décident de ne pas fréquenter le site?
Je pense que oui, oui.
Et, c'est un vrai problème, ça.
Oui, c'est un vrai problème. Ce qu'on conseille plus, c'est de doubler le langage. Alors, viser un niveau 3, donc viser des gens de secondaire 5. Alors, comme je dis à la blague, c'est facile, on enlève tous les adverbes, les adjectifs, puis on rajoute genre, tu sais, là, partout, puis les secondaire 5 comprennent très, très bien.
Ou on s'assoit à table avec son adolescente pour rédiger son site web.
C'est ça.
C'est bon.
Et puis, ou alors... On peut rajouter des schémas, rajouter une petite vidéo explicative, rajouter une image, rajouter des explications supplémentaires. L'idée étant plus d'élever les gens qui ont des difficultés que de se mettre à se rabaisser son propre langage. C'est ça aussi qui est important.
Mais la vidéo, on s'assure quand même de la sous-titrer par ailleurs.
Ben bien sûr, bien sûr. Elle suit les mêmes règles que le reste.
Ouais.
Mais quoique le sous-titrage vidéo est moins important si on a le texte à côté qui fait déjà la job.
OK, donc bon. Ça sera un compromis peut-être.
Et pour conclure là-dessus, je dirais que la question des handicaps cognitifs passe à travers le langage, donc le choix des mots, le choix des tournures, du niveau du langage, et qu'une bonne façon de voir ça, c'est de se dire, moi-même, avec toutes mes capacités cognitives qui ne sont pas remises en question, quand je visite un site web qui est dans une langue étrangère, dans quelle situation je me trouve? Ben moi, je me trouve dans une situation de handicap cognitif léger. Je parle anglais, mais mon niveau baisse un petit peu en anglais, en russe, en allemand
c'est
aussi.
C'est la posture qu'il faut avoir.
Oui,
imaginez
vous
lisez pas le même langage que vous êtes habitué d'employer.
Écrivez pour des gens qui n'ont pas le français ou l'anglais en langue naturelle.
Parfait. Merci, Vincent-François. Très éclairant, comme d'habitude. On se retrouve dans un mois.
Lorsque j'anime l'émission Les Paractualités, il y a parfois des sujets qui me font sourire, ben, du moins... pas parce qu'ils sont forcément drôles, mais parce qu'ils sont inattendus. Comme par exemple celui-ci qu'on a trouvé dans un journal qui vient de l'ouest, de Vancouver. Et il s'agit d'un médecin tunisien qui est installé maintenant à Vancouver, en Colombie-Britannique, et qui nous parle de la façon dont il a perçu la ville de Vancouver en arrivant. Ça part à l'aéroport et il nous parle aussi dans les bus. Il n'en revient pas de la place qui est faite aux personnes handicapées et aux personnes âgées et de l'attention surtout qu'on leur donne. Alors, enfin, des attentions, devrais-je dire, qu'on leur donne à ces personnes-là. Alors, je vous propose de réécouter ce papier tel que je l'ai lu dans les Paractualités, un Tunisien à Vancouver. Par actualité nationale, les impressions d'un Tunisien à Vancouver. Une visite à Vancouver vous fait prendre conscience de l'énorme gouffre qui sépare la Tunisie du monde véritablement civilisé dans plusieurs domaines, écrit le docteur Maher Baoul. Dès l'arrivée à l'aéroport international de Vancouver, au Canada, on est frappé par l'agréable accueil des officiers de la police d'immigration et de la douane. Qu'ils soient timides et rétrécis ou larges et chaleureux, écrit ce docteur tunisien, le sourire sincère de ces officiers égaie votre journée. Même si c'est la première fois que vous foulez le sol canadien, cette première rencontre avec les officiels du pays vous donne la sensation d'être dans un chez-soi. Cette hospitalité semble singulière par rapport à ce qu'on est habitué à vivre et voir ailleurs, et particulièrement par rapport à mon pays, la Tunisie, où je reste perpétuellement indisposée par l'interaction sèche et la mine renfrognée de nos policiers à l'accueil à l'aéroport de Tunis-Carthage. Le transport en commun à Vancouver est admirable. Les bus sont non seulement fréquents et arrivent à l'heure, mais disposent aussi de tous les services. Si vous êtes en fauteuil roulant, le bus est généralement équipé pour répondre à vos besoins et à rendre votre voyage aussi confortable et facile que possible. Ils sont équipés d'un système hydraulique permettant au conducteur de rabaisser le bus afin de réduire l'écart qui les sépare du trottoir. Une passerelle automatisée est alors activée pour permettre l'accès en douceur du fauteuil roulant. À l'intérieur du bus, précise ce monsieur, les deux premières rangées de sièges sont réservées pour les personnes âgées, aux jeunes mamans avec poussettes et enfants ou aux personnes handicapées. Le souci de sécurité est poussé à l'extrême puisque le conducteur doit s'assurer qu'une chaise roulante ou qu'une poussette est bien amarrée avant de démarrer. Les personnes à mobilité réduite à Vancouver sont traitées avec beaucoup de respect et une attention particulière qui est vraiment frappante. Ainsi, pour accéder ou quitter le bus, le conducteur informe tous les autres passagers de patienter afin que ces personnes puissent être servies en priorité. Que vous soyez sur une chaise roulante, sur une bicyclette, avec une poussette ou avec des béquilles, le transport en commun à Vancouver est organisé pour répondre à vos besoins. À Vancouver, le piéton est roi, les trottoirs sont larges et propres, les passages pour piétons sont équipés de minuteries. Pour traverser une route, vous appuyez sur un bouton et quelques instants plus tard, un feu rouge s'allume et le flot de voitures s'arrête pour vous donner la priorité et traverser. Dans les petites rues sans feu de circulation, les automobilistes presque instinctivement cèdent le passage aux piétons. Bref, dit ce monsieur tunisien, je vis dans une grande ville très étalée, très belle, très civilisée. Et je n'éprouve aucun besoin d'acheter une voiture. Prendre le bus avec le reste des habitants de cette ville ou flâner dans ces espaces publics est un plaisir renouvelé tous les jours. Voilà pour les gens de Vancouver. Il me semble que ça fait plaisir de lire bientôt, prochainement dans l'émission, peut-être un témoignage comme celui-ci à Montréal. C'est intéressant hein, de réécouter tout ça. Vous en voulez encore? Eh bien, ça tombe bien, on en a d'autres pour vous. Rendez-vous dans quelques minutes. Alors nous voici de retour à l'émission Le National avec accès libre du 14 février, alors que Benoît Racette découvre une jeune femme handicapée impliquée auprès des amputés de guerre, Cynthia Amelgamash.
Une jeune femme en situation d'handicap, Cynthia Amelgamash, est non seulement une ambassadrice pour les amputés de guerre, mais elle y est aussi responsable des communications. Donc bonjour Cynthia Amelgamash.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, je me permets de vous parler cœur à cœur aujourd'hui. C'est peut-être un coming out, mais parce que j'ai aussi une prothèse, je sais que ça peut être une motivation, mais même des fois, c'est un obstacle parce qu'on veut passer à autre chose. Mais d'abord, vous, qu'est-ce que vous avez vécu?
Bien, en fait, moi, je suis née avec une amputation congénitale à la jambe droite okay. ainsi qu'au pied gauche.
Okay.
J'ai commencé à marcher avec des prothèses. J'ai appris à vivre avec des prothèses, en fait. Et de quoi je vais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est vraiment qu'est-ce qui m'a donné le plus de soutien par rapport à mes amputations, en fait. Mm-hmm. C'est les amputés de guerre.
Mais oui, en fait, les amputés il y a un programme guerre, auquel oui, vous avez programme. Participé en particulier. Mais donc, vous avez décidé de joindre le programme un jour. Pourquoi exactement?
Mais en fait, c'est à l'âge où je me suis inscrite, en fait, c'est mes parents qui ont pris la décision. Mm-hmm. Parce que ça peut être un petit peu difficile de vivre avec une situation comme ça quand on n'a peu d'informations, on n'a pas nécessairement d'exemples autour de nous. Surtout qu'on monte, moi j'ai 23 ans, on monte en 1993. Ouais. C'est sûr qu'il n'y avait pas autant l'avènement d'Internet. Donc c'est certain que ça a été vraiment un soulagement pour mes parents de voir des enfants amputés et même des adultes performer dans la vie et de vivre une vie dite normale, entre guillemets.
Mais au-delà de vivre normalement, comme vous le dites, c'était vraiment difficile de retrouver des personnes qui vivaient la même chose que nous. On n'avait pas à chercher qu'un groupe en quelques clics. Là.
Non,
les lieux étaient rares.
Oui, bien, en fait, moi-même, dans ma situation, j'étais la seule qui vivait cette situation-là dans mon école primaire ou secondaire. Mm-hmm. Donc, c'est certain que ça permet de sortir de l'isolement, en fait, en tant que personne amputée, de voir que c'est possible de faire des études, de vivre une relation amoureuse, de vraiment continuer une vie dite normale et de pas nécessairement s'arrêter à l'amputation, puisque ça fait partie de nous, mais ça nous fait pas en tant que personne, en fait.
Mais j'avais envie de parler de ce véhicule-là parce que, bon, quand on est en fauteuil, quand c'est annoncé d'avance qu'on est en situation de handicap, évidemment, les gens, pour le meilleur et pour le pire, s'ajustent. Est-ce que vous avez, comment je pourrais dire, est-ce que vous avez souffert du fait que ce soit un peu invisible puis que parfois vous aviez des besoins particuliers?
Ben c'est sûr que effectivement c'est parfois un peu invisible parce que justement avec des culottes longues, ça ne paraît pas au premier regard.
Ouais.
Donc c'est sûr qu'il faut vraiment expliquer peut-être un peu plus la situation puisque c'est pas moi, c'est pas des mains, c'est des jambes et que je suis en bas des genoux. Donc puis le fait que j'ai appris à marcher avec des prothèses fait que j'ai une démarche un petit peu plus dite naturelle.
Ouais.
J'ai pas réappris à marcher, j'ai pas fait de réhabilitation. Donc c'est certain que mettons pour des cours au secondaire par exemple, l'éducation physique, il fallait que j'aille dire à mon professeur, il y a des tests que je vais pouvoir faire, mais qui ne seront pas adéquats face à ma situation.
Est-ce que les gens réagissaient bien?
Oui, en fait, c'est certain que c'est tout le temps une surprise. Les gens, ils sont pas certains au début parce que pour eux, quelqu'un d'amputé ne marchera pas nécessairement comme moi, je vais marcher. Mm-hmm. Donc, c'est certain que c'est une surprise. Beaucoup de questionnements, puis c'est tout à fait normal parce que c'est pas quelque chose qu'on est confronté à tous les jours. Donc, c'est normal d'avoir un certain questionnement par rapport à ça.
Bon.
Mais il y a toujours un ajustement à faire à ce moment-là. Mm-hmm. Par chance, j'en ai pas eu beaucoup à faire dans ma jeunesse parce que j'étais vraiment très, très bien appareillée. Ouais. J'ai vraiment eu beaucoup de chance par rapport à ça.
Est-ce que le programme vous a aidé en ce sens-là?
Oui, mais en fait, le programme des amputés de guerre est vraiment... Les amputés de guerre ont été créés spécifiquement pour les personnes amputées de la guerre à la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. De là vient le nom. Mais dans les années 70, ces vétérans-là se sont rendus compte que la situation d'amputation n'était pas seulement vécue par eux, mais par beaucoup d'autres gens autour d'eux. Mm-hmm. Donc, ils ont créé deux programmes distincts. Les vainqueurs, pour les enfants amputés que la plupart des gens connaissent, et pour les amputés adultes.
Okay.
Donc, les vainqueurs ont été créés vraiment pour les enfants amputés parce que c'est une situation vraiment plus spécifique, c'est-à-dire que l'enfant amputé va changer 2 à 3 fois dû à la croissance, bien évidemment, de prothèse. Donc, il y a besoin aussi d'un meilleur encadrement parce que grandir avec une amputation, c'est quand même ça peut être un fardeau pour certaines personnes et pour leurs familles. Donc, ils créent des séminaires régionaux à tous les années pour permettre justement à ces familles-là de se rencontrer. Et c'est comme ça, par exemple, que mes parents ont pu voir d'autres personnes amputées vivre une vie là, bien remplie.
Okay. Est-ce que vous sentez que les jeunes ont envie de participer à des activités pensées pour eux comme personnes amputées?
C'est certain que moi, je connais des gens qui font des sports spécifiquement par rapport à l'amputation, par exemple le hockey luge.
Mm-hmm.
Mais la plupart des jeunes amputés que je connais, c'est sûr que tout est différent par rapport à l'amputation, le niveau de l'amputation aussi. Mais la plupart des gens que je connais vont faire des sports avec des adaptations. Par exemple, le hockey, ils vont seulement adapter la main avec une prothèse pour pouvoir tenir le bâton de hockey adéquatement. Ils vont pouvoir jouer au hockey là, sans problème. Mais ça dépend vraiment du type d'amputation à ce moment-là. Donc, c'est certain que, par exemple, une de nos membres fait de l'escrime en fauteuil roulant, à ce moment-là, c'est certain que c'est à cause de son amputation. Elle ne pourrait pas faire des compétitions comme elle fait en fauteuil roulant.
Oui, ça prend beaucoup d'aide technique là, pour arriver à le faire en toute liberté, j'oserais dire. Est-ce qu'il y aurait un message que vous avez envie de porter, au-delà du fait là, que vous représentez ce programme-là, les vainqueurs, est-ce qu'il y a un message que vous voulez porter, vous, particulièrement?
Bien, en fait, en ce moment, on est en campagne des plaques porte-clés.
Ouais.
Donc, c'est certain que nous, on n'est pas un organisme subventionné par le gouvernement.
Ah oui,
donc,
c'est complètement la charité ou la philanthropie qui vous fait vivre?
On vit complètement des dons du public.
Okay.
Donc, c'est d'autant plus important pour nous. Comme je disais tout à l'heure, un enfant amputé peut changer en 2 à 3 fois dû à la croissance de prothèse. Donc, c'est vraiment super important pour nous d'avoir ces dons-là pour...
Le gouvernement ne défraie pas toujours les...
Les prothèses, effectivement. Surtout pour les prothèses récréatives, je vous dirais, c'est souvent une deuxième ou une troisième prothèse. À ce moment-là, nous, on vient combler ce manque-là. Mm-hmm. Donc, permettre vraiment aux gens amputés de rester actifs, d'avoir une vie qui leur permet de toutes les activités qu'ils veulent bien faire, vouloir faire. Donc, ça nous permet, nous, d'aider ces gens-là à continuer à vivre pleinement.
Bien. Brièvement, où on trouve l'information sur la campagne porte-clés en quelques secondes?
Oui, bien en fait, c'est dans le www.amputé.ca. Il va y avoir un formulaire en ligne très, très simple que vous pouvez remplir pour recevoir les petites plaques porte-clés. Mais en fait, les plaques porte-clés, seulement pour spécifier à vos auditeurs, c'est un service qui est à la base gratuit. Mm-hmm. Donc, les dons, c'est vraiment, c'est vous qui décidez le don que vous voulez bien nous faire. C'est pas très, très compliqué à commander, comme je vous disais, sur le site Internet, ou vous pouvez nous appeler au 1-800-265-3030. À ce moment-là, on va pouvoir vous les commander. Il n'y aura pas de problème.
C'est très gentil. Merci de nous avoir témoigné de ce que vous avez vécu, à quel point vous aimez ce programme. Et merci, Cynthia Amel-Gamache.
Oui, je veux juste spécifier le numéro, excusez-moi, c'est de 1-800-250-3030. 1-800... Et ça me fait plaisir de vous parler.
1-800-250-3030. On va l'indiquer d'ailleurs sur notre page. Merci, Cynthia Amel-Gamache.
Merci à vous.
Donc, Cynthia Amel-Gamache était notamment porte-parole pour les amputés de guerre et elle est venue nous présenter le programme Les Vainqueurs. Très important, il s'adresse aux jeunes amputés. C'est pas toujours facile de vivre cette réalité-là, mais on a envie d'être actifs comme tous les jeunes. Alors, c'est pour ça que Amputés de guerre est là.
Le 28 février, c'est la Journée internationale des maladies rares. Et évidemment, sur Canal M, on en parlera. Et on en a déjà parlé d'ailleurs, avec notamment Marianne Paquette à l'émission Portrait de famille, le 13 février dernier.
Cathy Bazinet, bonjour!
Bonjour!
Vous êtes journaliste, communicatrice, fondatrice de ce site e-santé communication. On vous parle, Cathy, aujourd'hui en lien avec un texte que vous avez publié sur l'agence Science Presse, que l'on peut retrouver aussi sur votre site e-communication. Les maladies rares et médias sociaux, la force des réseaux de patients et de proches. Bien sûr, ça interpellait Frédéric et Geneviève parce que ils sont en train de créer cette fondation, Arthur Bruno, avec la clinique, de rassembler des familles, des gens pour parler du X fragile, pour le démystifier, pour trouver des recherches. Et on a les médias sociaux de nos jours qui peuvent nous aider. Quels sont leurs rôles dans le cas de maladies de familles plutôt touchées par une maladie rare, Cathy?
Mais dans le cas des réseaux sociaux, une des premières choses qu'on peut identifier dans les avantages de les utiliser, c'est que c'est une façon de briser l'isolement et de tenir un soutien social. Hein. Comme le qualificatif rare le suggère, souvent c'est difficile de trouver d'autres patients ou d'autres proches qui souffrent de la même maladie. Donc, les réseaux sociaux vont abolir certaines frontières comme l'emplacement géographique ou même la mobilité. Donc, dans un premier temps, ça permet aux gens de briser cet isolement-là et aussi d'obtenir un soutien social. Donc, on peut échanger avec d'autres personnes qui comprennent enfin ce qu'on peut vivre, soit à titre de patient ou de proche. Et ça permet essentiellement de partager de l'information. C'est souvent ce qui est rapporté. Les gens, c'est un avantage très précieux pour eux. D'information à plusieurs niveaux, je dirais. On peut échanger sur des découvertes médicales, des recherches en cours. On peut partager aussi son vécu, ce qu'on appelle du savoir expérientiel, tout en demeurant prudent, évidemment, par rapport à l'information là, qui est échangée. Et on peut aussi partager de l'information parce qu'une maladie rare, ça peut toucher toutes les sphères de la vie. Donc, on peut partager de l'information pour mieux naviguer dans des systèmes complexes. Je ne parle pas juste du réseau de la santé ici, ça peut être le réseau de l'éducation quand on a des enfants qui ont des besoins particuliers. Ça peut être sur des questions administratives, par exemple, comment formuler une demande pour obtenir une vignette d'accompagnement.
Mm-hmm.
Donc, c'est à plusieurs égards qu'on peut échanger de l'information.
Cathy, je me disais aussi qu'il y a des familles, des parents qui s'en servent pour communiquer des informations sur leurs leur enfant. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'appeler tout le monde puis de faire 25 appels lorsqu'on sort de chez le médecin. Et on peut s'en servir là, pour donner de l'information à tout le monde. Est-ce que ça, ça peut être une bonne pratique?
En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, quand ce sont des groupes, par exemple, qui sont secrets, qui sont pas nécessairement publics, et là, on a un contrôle sur le public qui peut avoir accès aux informations qu'on partage, c'est effectivement identifié par les proches et des patients comme un gain de temps et d'énergie. Oui. Donc, on peut informer l'ensemble de son réseau d'amis, parenté, collègues, etc., de l'état de santé ou de l'évolution de la condition de santé à un public qu'on a choisi. Donc, oui, ça reste dans la sphère de l'intimité, même si c'est sur les réseaux sociaux.
Oui. Je me demandais, dans les désavantages, si à un moment donné, on ne perd pas un peu le contrôle, et je mets des guillemets, à savoir s'il faut jouer absolument un rôle de modérateur parfois, ou s'il peut y avoir de la désinformation. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter ça?
En fait, ça va varier beaucoup selon le type de groupe. Hein, la qualité d'un réseau, c'est souvent lié à la qualité aussi des membres qui la composent. Généralement, les gens vont beaucoup s'auto-réguler dans des groupes, bon, sur Facebook, par exemple. Oui, c'est sûr qu'il y a des risques de désinformation. À ce moment-là, je pense qu'il faut apprendre à développer un sens critique de l'information. Puis souvent, on parle de la triangulation des sources. Ça veut dire que je peux voir une information à un endroit, mais je vérifie par d'autres sources. Ça peut être un professionnel de la santé, donc c'est pas nécessairement sur Internet, mais je vais valider avec d'autres sources que c'est pertinent puis que ça s'applique à ma condition. Oui. Donc ça peut être une façon de contrer un peu les effets de la désinformation.
Frédéric et Geneviève, est-ce que vous utilisez les médias sociaux pour parler du ex-fragile ou pour parler d'Arthur ou de votre clinique, de la fondation éventuellement?
Absolument.
Approchez-vous un petit peu, Frédéric.
Absolument, c'est une partie intégrante de notre intervention au niveau du ex-fragile. On a une page publique ex-fragile où on peut publier des nouvelles plus générales, mais on a aussi un groupe de support qui est, dans notre cas, qui est fermé pour permettre aux gens de le trouver plus facilement. On avait ce problème-là aussi. Au niveau de la médiation, je pense que je suis intervenu une fois depuis 5 ans.
OK.
On a un super groupe. Puis,
Ce sont des parents d'enfants qui ont le X fragile.
Parents ou ça peut être, mettons, un oncle ou une tante ou un frère, par exemple.
Ou des intervenants.
Ouais. Et ça roule, c'est le bonheur total pour l'instant.
C'est le bonheur total. Et ça, c'est intéressant, Frédéric, ce que vous dites. Cathy, on entend par là que ça peut aider véritablement des parents et des familles d'avoir ce genre de groupe-là. Bon, encore faut-il qu'il soit positif. Comment on peut le créer, ce réseau-là? C'est quoi les bonnes pratiques pour intéresser les gens, aller les chercher, faire connaître notre groupe?
Mais premièrement, si on veut se lancer dans ce type d'activité, donc être soi-même le gestionnaire de la communauté, il faut avoir conscience qu'on doit consacrer beaucoup de temps quand même à l'animation d'un réseau. Quand je parle de la qualité des membres tout à l'heure, ben le groupe, son dynamisme aussi va être à l'image du dynamisme du gestionnaire de réseau. Ouais. Donc ça, c'est important. Et puis je pense que il y a différentes façons de faire la promotion ensuite de son groupe selon le médium qui a été choisi. Puis on peut mettre des critères aussi de sélection selon ce qu'on recherche comme membre. Mm-hmm. Je sais par exemple que ça c'était très important là, pour le groupe Facebook dont je faisais mention dans l'article qui s'appelle Maladie rare orpheline soutien référence. Oui. La raison pour laquelle la gestionnaire a lancé ce groupe-là, c'est que elle fréquentait d'autres sites aux États-Unis ou en France. Puis elle avait vraiment un besoin de parler avec d'autres personnes qui vivaient au Québec parce que leur situation était plus similaire au niveau, bon, je parlais tout à l'heure de administratif ou de type de réseau de la santé. Donc, pour elle, ça a été un critère de sélection. Il fallait que les gens soient sur le territoire du Québec. Ouais. Et il faut savoir que ce groupe-là regroupe plusieurs maladies rares. Et ce qu'elle disait, elle, qui était très aidant pour les gens, c'est qu'ils ont souvent des troncs communs, entre guillemets, de symptômes qui font en sorte que même s'ils n'ont pas exactement la même maladie, ils peuvent déjà partager des connaissances ou des trucs qui sont liés à un quotidien qui est similaire. Mm-hmm. Donc, même si c'est pas la même maladie, on peut dire, ben, nous, on va accepter tous les gens qui ont une maladie rare, mais ça doit se limiter géographiquement au Québec, par exemple.
Geneviève?
Oui, en fait, puis ce groupe-là est aussi utile pour des choses aussi banales que comment faire la demande pour avoir une poussette adaptée à l'IRDPQ.
Mm-hmm. Oui.
Et mm-hmm. c'est comment faire... En ce moment, ils font beaucoup de pression sur ce groupe-là pour avoir des chariots d'épicerie adaptés, les Carolyn's Cart.
Oui.
Ils ont fait des démarches extraordinaires. Stéphanie a réussi à en faire entrer là, dans beaucoup de Walmart, entre autres, ou puis elle est extrêmement dynamique. En fait, dès qu'on est accepté dans ce groupe-là, elle nous envoie des câlins virtuels, elle nous explique comment le groupe fonctionne, elle nous... C'est un groupe très dynamique.
Ça vous a aidé, donc, Geneviève?
Nous, on était déjà, en fait, le groupe Facebook X-Fragile était déjà assez actif à ce moment-là. Ça a comme été un ajout. Mm-hmm. Puis effectivement, les deux donnent des informations différentes, puis on peut partager l'information d'un groupe à l'autre là, pour aider les deux communautés.
Frédéric, on peut trouver comment votre groupe pour le X-Fragile?
Tout simplement en cherchant groupe X-Fragile.
Sur
Québec.
Facebook.
Oui, puis notre logo, il est orange.
Oui.
On ne peut pas le manquer. Et c'est ça, groupe X-Fragile, oui. Québec.
Comment, Cathy, quand on démarre ce genre de groupe-là, qu'on a envie d'interpeller des familles, on peut évaluer que nos interventions sur les médias sociaux sont adéquates, sont efficientes?
Mais un peu comme je disais tout à l'heure, il faut déjà développer un sens critique quand on partage de l'information. On parle de plus en plus de curation de contenu. Donc la curation, c'est un mot qui vient de l'anglais là, qui signifie prendre soin. Donc c'est l'idée de soigner l'information qu'on va partager. Mmh. On va nous-mêmes déjà faire un tri, on va les valider. Et souvent, les gens ont le réflexe de partager de l'information sans avoir lu au préalable, nécessairement. Ouais. Donc, c'est vraiment de développer une vigilance en termes de qualité d'information qu'on va partager. Déjà, ça, je trouve que c'est un point super important. Et puis, en partageant de l'information pertinente, des recherches qui encore, on anime, dans le fond, la communauté. On permet aux gens de réagir et de partager à leur tour de l'information qui est pertinente.
Oui. Et comme le disait tantôt Geneviève par rapport à cette maman-là, pour les Caroline, là, c'est qu'elle prend soin de son réseau, les câlins virtuels, les petits coucous. C'est une façon aussi d'entretenir et de s'occuper là, des gens qui nous suivent.
Oui, absolument. Et je vous dirais que ça devient contagieux, que d'autres aussi adoptent cette façon-là de communiquer. Donc, ça a un effet positif sur l'ensemble du groupe.
Oui. En terminant, Frédéric, peut-être, ça vous apporte quoi, ce réseau-là, sur Facebook? Parce que, oui, vous transmettez de l'information, mais vous, personnellement, en tant que papa, est-ce que ça a aussi des retombées?
Absolument, dans le fond, parce que ça me permet de me rendre utile.
Oui, voilà.
Et puis en même temps, c'est agréable. Donc, je rends l'utile à l'agréable. Je suis bien content.
Voilà. Cathy Bazinet, on peut lire ce texte « Maladies rares et médias sociaux, la force des réseaux de patients et de proches » sur votre site e-santé-communication.com, aussi sur le site de l'agence Science Presse. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Cathy, vous êtes journaliste, communicatrice et fondatrice, éditrice de ce site e-santé-communication. Merci.
Merci infiniment.
Bye-bye.
Au revoir.
Si vous êtes des fidèles de l'émission Des livres plein les oreilles que j'anime, vous savez que souvent j'invite des bénévoles de chez Vues et Voix, oui, ceux-là même qui lisent des livres bénévolement qui vous sont destinés soit via le SQLA au Québec ou via le CAEB partout au pays. Eh bien, cette journée-là, le 16 février, Pascal Bernard nous parlait du livre de Jean-François Beauchemin, La fabrication de l'aube. Alors, bonjour à vous toutes et vous tous, et bonjour à vous qui venez peut-être de vous joindre à nous, comme le veut la tradition, et surtout quand c'est possible, nous avons toujours le bonheur de recevoir quelqu'un qui est bénévole ici chez Vues et Voix, et qui, entre autres, contribue à l'enregistrement de livres, soit en tant que lecteur, soit en tant que moniteur. Pardon. Aujourd'hui, c'est Pascal Bernard qui est avec nous. Ça fait un paquet de temps que vous faites ça, vous, Pascal?
Oui, ça fait une dizaine d'années. Ça fait
quand même.
Là, j'ai eu une petite interruption parce que j'ai pas mal voyagé, puis Mais alors, et puis là, j'ai un petit peu de mal à reprendre parce que je viens le soir parce que je travaille. Et puis, j'aimerais venir, mais ça fait j'ai deux soirs par semaine où je suis pris. Alors, il faudrait ajouter un troisième soir. Alors, j'ai un peu de mal en ce moment. Mais enfin, bon, je ne dis pas non, de toute façon.
Mais c'est bien la preuve que ce n'est pas toujours évident, hein, que les gens qui font ça, ben, c'est ça. Il faut qu'ils rentrent ça dans leur agenda. Puis, il y a des fois où c'est... Mais on le fait quand même toujours de bonne humeur.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Hein, Pascal?
C'est un engagement facile à tenir, quand même.
Pascal, je suis très heureuse de votre choix aujourd'hui. C'est quelqu'un qu'on a déjà accueilli, d'ailleurs, ici, à l'émission, mais pour un autre bouquin. Je vous laisse présenter ce livre.
Alors, c'est La fabrication de l'aube de Jean-François Beauchemin.
Oui.
Moi, j'ai aimé ce livre parce qu'il écrit ce livre après un accident de voiture très grave et il pensait vraiment mourir. Il pensait vraiment que c'était ses derniers moments. Avant de rentrer à l'hôpital, d'ailleurs, il demande à l'infirmier de s'arrêter et de regarder une fois le soleil parce qu'il pensait vraiment ne pas être là le lendemain. Heureusement pour lui et pour tout le monde, parce qu'il continue à écrire, eh bien, ça n'a pas été le cas, il est toujours là, mais ça l'a quand même suffisamment bouleversé et remué pour qu'il écrive ce qu'il a vécu. Et moi, je suis très content d'avoir lu parce que je suis passé deux fois près de la mort. C'est bizarre, hein. Quand j'étais jeune, j'étais soldat dans l'armée française, et dans l'endroit où j'étais, il y a eu un coup d'État. Alors on était chargé de défendre normalement les intérêts de la France, mais aussi le président de la République en place dans ce pays africain. On a reçu, heureusement, un message de l'ambassade qui nous disait « Non, vous ne bougez pas parce que c'est une affaire africaine. » Bref. Mais, évidemment, tous les Occidentaux se sont ramenés dans le camp où nous étions. Et de 500, nous sommes passés à 3000. Alors, évidemment, femmes, enfants, alors toutes les ambassades, tous les consulats étaient là. Et... pendant trois jours, on s'est regardé en chien de faïence avec donc les soldats africains qui nous cernaient. On était cernés par eux. Mmh. Et on se demandait qui allait tirer le premier. Mmh. Et là, je me suis posé la question de la mort. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être la dernière semaine. Et j'avais 20 ans.
Oui.
Et c'est bizarre parce qu'on passe par tout un spectre de sentiments. Et je me suis dit, ouais, tiens, où est-ce que j'en suis? Alors, bon, je suis croyant, et bon, évidemment, donc pour moi, il y a une autre espérance, mais et je me suis dit, là, effectivement, qu'est-ce qu'on doit faire? Et je me souviens très bien d'un collègue qui m'a demandé, mais dis, toi, t'es croyant, qu'est-ce que t'en penses? Et on était tous et cela engagés. Hein. Mais lui, quand même, vous savez, on ne fait pas de gaieté de cœur, on veut bien faire des missions humanitaires, on veut bien faire du tir à la cible, mais quand arrive le temps des combats, c'est vrai qu'on doit le faire, on était payé pour ça, mais bon, c'est pas de gaieté de cœur,
non,
on y va.
C'est sûr.
Et alors... Il me dit, mais alors toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je lui dis, écoute, tu vois le camp, là, il y a plein de civils qui comptent sur nous. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas se défendre. Alors, nous, on n'a pas le choix. On aura un sale boulot peut-être à faire, mais il faudra que...
Voilà,
il faudra le faire.
Alors, on va donc revenir
sur le livre.
Mais cela dit, c'était passionnant, votre aventure. On va revenir à la fabrication de l'aube.
Alors, moi, j'ai bien aimé, j'aimerais juste... Je peux lire quelques lignes.
Oui, okay,
quelques lignes. Alors, il dit là...
Jean-François Beauchemin.
Jean-François Beauchemin, il se réveille et il dit, son frère arrive. Alors, il dit, une fois il est venu alors qu'une fatigue très forte s'emparait de moi. Je me souviens de m'être endormi dans les minutes ayant suivi son arrivée. Deux heures plus tard, j'ai ouvert les yeux et mon frère était encore là, assis à mon chevet. Je conserve de ce moment une impression d'infinie fraternité. Les hommes qui se querellent parce que leur Dieu le leur demande devraient s'asseoir une heure sur cette chaise où mon frère s'est occupé de mon sommeil. J'avais souhaité que mon père et ma mère, du creux de leur tombe, veillent sur moi. J'ai senti que Pierre le faisait, avec des gestes et des mots de vivant. Je retrouvais, dans ses paroles discrètes et ses gestes contenus, ce qu'il avait mis pendant toutes ces années dans ses photos, une luminosité redirigée, instruisant de son faisceau une humanité nouvelle, rétablie. Alors, voilà. Alors évidemment, il ne parle pas de ça. Au début du livre, il parle de la mort, comment il la voit, etc. Et c'est passionnant. Alors, quand on a vécu, effectivement, des expériences très extrêmes, ça nous remet un petit peu dans cette perspective.
Ouais,
et puis,
ouais.
C'est bien parce que ça peut aussi donner un petit peu, je dirais, des arguments ou ça peut nous donner un petit peu suffisamment de champ, de perspective pour accepter. Parce que quelquefois, on entend des gens. On n'a pas que des jeunes gens autour de nous. On a aussi des personnes âgées ou des personnes qui sont en phase terminale. Et c'est bien d'avoir un petit peu de matière, oui, de c'est... gens qui ont vécu, qui sont passés près de oui. cet événement, oui. pour pouvoir comprendre, écouter, oui. et puis avoir les mots pour compatir.
Oui, c'est ça. Et c'est un livre, moi, dans mon souvenir, c'est ça qui est très réconfortant et très beau, parce que oui. Beauchemin... Je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais...
Il écrit très bien.
Au niveau de la plume,
il écrit très, très bien, absolument.
C'est absolument un excellent écrivain, remarquable. Oui, quel titre aussi. Oui. Parce que la fabrication de l'aube.
Oui.
Parce que là, on comprend que c'est tout ce qui se passe avant qu'il se réveille. Donc, c'est toute la...
Tout à fait.
Toute cette fabrication-là, effectivement. Est-ce que vous aviez autre chose encore à nous communiquer sur ce livre, Pascal?
Non. J'encourage ceux qui nous entendent à écouter ce livre.
Oui.
Parce que ça vaut le coup, c'est vrai. C'est un bon moment.
C'est le bouquin, d'ailleurs, qui l'a fait connaître. C'est celui qui s'est vendu parmi tous les livres qu'il a sortis absolument le mieux. Et puis les médias en avaient parlé aussi beaucoup à l'époque. Alors, c'est très, très bien de nous le remettre en mémoire, surtout après le sujet un petit peu difficile que nous avons abordé.
Oui.
En première partie, c'est une bouffée de fraîcheur que vous nous avez apportée à Pascal.
C'est un plaisir.
Merci beaucoup. Ainsi s'achève le National. Merci à vous toutes et vous tous de l'avoir suivi. Et merci à mon équipe qui m'a aidé à concocter cette émission-là. C'était Clotilde Sey qui vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.